Je ne pensais pas que j'aurais pu tomber si bas. C'est une façon de parler courante, que vous avez peut-être déjà utilisée à un moment où ça n'allait peut-être pas très bien. Ou alors, si vous n'avez pas utilisé à propos de vous-même, peut-être à propos de quelqu'un d'autre, c'est toujours un peu plus facile. Le prophète Jonas, lui, n'a pas parlé exactement en ces termes, mais il aurait pu. Il est descendu vraiment très bas. Et nous poursuivons ce matin notre nouvelle série sur, elle sera courte cette série, hein, mais sur ce petit livre prophétique. Et nous arrivons au chapitre 2. Et pour ceux qui souhaitent utiliser les Bibles qui sont sur les bancs, Jonas 2 se trouve à la page 898. Jonas 2, donc page 898. Avant de lire le texte, un petit rappel. Nous avons vu il y a un mois à peu près que Jonas, qui a pour vocation d'être un prophète d'Israël, se comporte plutôt comme un anti-prophète. Dieu lui ordonne d'aller à Ninive, une grande ville qui était considérée comme ennemie pour les habitants du royaume du nord d'Israël dont faisait partie Jonas. Dieu lui ordonne donc d'aller à Ninive pour prêcher au peuple païen de Ninive le besoin de connaître le seul vrai Dieu qui est le Dieu de toutes les nations. Alors Jonas se défile et il prend un bateau pour aller le plus loin possible de Ninive. Il part exactement dans la direction opposée, dans la direction de Tarsis qui se trouvait sans doute au niveau de l'Espagne actuelle, sud de l'Espagne. Il s'imagine qu'il peut fuir loin de la présence de Dieu. Et on a vu au premier chapitre que l'auteur du livre met en contraste Jonas, le prophète égaré, et les marins païens qu'il a recrutés pour le faire fuir. Il a payé des marins pour l'emmener en bateau à Tarsis. Alors eux sont des païens, ils n'ont a priori aucune connaissance de Dieu, ils adoraient toute une quantité de Dieu, mais ils prennent conscience de la folie de la démarche de Jonas. Et par une incroyable ironie, ce sont ces marins qui, alors même que Jonas, lui, a été tout sauf un modèle de foi, se tournent vers Dieu, le seul vrai Dieu, et reconnaissent qui il est. Et là où nous nous étions arrêtés, le récit semble très mal tourné pour Jonas. Il demande lui-même à être jeté à la mer pour sauver le bateau de la tempête. Il comprend que cette tempête vient de Dieu, est un jugement contre cette fuite folle qu'il entreprend. Les marins font tout d'abord pour éviter ce geste. On voit qu'ils ont une véritable humanité, qu'ils essayent de s'en sortir, mais après avoir demandé à Dieu sa grâce, eh bien, ils s'exécutent, répondent à la demande de Jonas lui-même et le jettent effectivement à l'eau. Il y a une sorte de démarche suicidaire, en fait, de la part de Jonas. On a vu que Jonas, depuis le début de l'histoire, il ne fait que descendre, toujours plus bas. Dans le premier chapitre, l'auteur utilise trois fois un même verbe en hébreu qui veut dire descendre. Et par là, il souligne combien la fuite de Jonas, loin de Dieu, c'est une sorte de descente aux enfers. Et cette chute va atteindre son comble dans le chapitre 2 que nous allons examiner ce matin. Mais en touchant le fond, ou presque, Jonas va aussi découvrir la grâce de Dieu. Et de manière très étonnante, il va découvrir la délivrance. Et je vais donc lire le texte, Jonas 2. Le Seigneur fit intervenir un grand poisson qui engloutit Jonas. Et Jonas resta dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria le Seigneur son Dieu. Il dit, « De ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur, et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu m'as entendu. Tu m'as jeté dans les profondeurs, au cœur des mers, les courants m'entourent, tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi. Et moi, je disais, je suis chassé, loin de tes yeux. » Mais je verrai encore ton temple sacré. Les eaux m'ont enserré jusqu'à la gorge, l'abîme m'entoure, des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes, les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Seigneur mon Dieu. Alors que je défaillais, je me suis souvenu du Seigneur, ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton temple sacré. Ceux qui s'attachent à des futilités illusoires éloignent d'eux la fidélité. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices en déclarant ma reconnaissance. Je m'acquitterai des vœux que j'ai faits. C'est au Seigneur qu'appartient le salut. » Le Seigneur parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Je résumerai l'idée centrale de ce chapitre par une petite phrase. Dieu a accompli un drôle de miracle pour un drôle de prophète, et ce faisant, lui a donné un cours d'humilité et de reconnaissance essentiel pour la reprise de sa mission. Vous n'êtes pas obligé de noter, mais je vais quand même répéter. Dieu a accompli un drôle de miracle pour un drôle de prophète, et ce faisant, lui a donné un cours d'humilité et de reconnaissance essentiel pour la reprise de sa mission. Deux points donc retiendront notre attention. D'abord, un drôle de miracle pour un drôle de prophète, et puis dans un second temps, un cours d'humilité et de reconnaissance. Premier point, donc un drôle de miracle pour un drôle de prophète. Chapitre 2, verset 1. « Le Seigneur fit intervenir un grand poisson qui engloutit Jonas, et Jonas resta dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria le Seigneur, son Dieu. » Comment réagir à ce verset ? En lisant ce texte, plusieurs diront « Impossible de croire quelque chose comme ça au XXIe siècle. » Pour beaucoup de lecteurs sceptiques, c'est une évidence, on est ici dans le registre du fantastique. Et même beaucoup de croyants, peut-être certains parmi nous, tout en pensant que Jonas a bien existé, préfèrent voir dans cet épisode le symbole de la descente de Jonas jusqu'au fond du gouffre et le salut inattendu que Dieu lui a accordé. Alors, à l'école du dimanche pour des enfants, on passe encore, mais on est quand même des adultes. C'est évident, diront certains, qu'on est ici dans le registre du symbole. Est-ce qu'il est juste de voir les choses ainsi ? Le problème, c'est que le reste du récit de Jonas se présente comme un récit ancré dans l'histoire. D'ailleurs, on a vu la dernière fois que Jonas est mentionné dans le livre des rois comme un prophète de la cour du roi Jéroboam II. Un très bref extrait, le deuxième livre des rois qui l'évoque. Il est vrai que la Bible utilise parfois des récits imagés et symboliques, c'est une évidence. Mais dans ce cas, la Bible nous donne des indices qui nous montrent qu'on est dans le registre symbolique. Alors, ce n'est pas toujours une évidence pour tous, et parfois il faut faire preuve de discernement, mais une bonne herméneutique, c'est-à-dire une bonne démarche d'interprétation du texte, nous conduit, il me semble, à voir que ce texte, Jonas, le prophète Jonas d'un point de vue général, n'est pas écrit dans un registre fantastique. Si ça avait été le cas, on aurait pu s'attendre à voir, par exemple, une description impressionnante du poisson. Beaucoup de détails évocateurs sur comment exactement ça s'est passé, ce que Jonas a fait pendant 3 jours dans le ventre du poisson, etc. Pas du tout. Le poisson est évoqué presque en passant, deux fois simplement au début puis à la fin. L'accent du texte ne porte pas sur le poisson, mais bien sur la prière de Jonas. Et le récit, tout en évoquant cet événement étonnant, reste par ailleurs sobre. Qu'en est-il de l'interprétation symbolique, qui peut-être nous tente un peu plus ? Il me semble qu'elle n'est pas très convaincante. Qu'il y ait une dimension symbolique à cet événement, oui, certainement. Mais le réduire à un symbole, s'il fallait trouver un symbole d'une sorte de descente aux enfers de ce prophète et de l'intervention de Dieu pour le sauver, il me semble qu'il y aurait eu beaucoup de choix plus logiques que d'introduire dans l'histoire un poisson qui avale le prophète. Alors je repose ma question, peut-on croire à un tel récit ? Il y a certains commentateurs du livre de Jonas qui sont comme nous, dans cette église, attachés à la véracité, à l'autorité de la Bible, à son historicité, et qui affirment que cet événement, le fait que Jonas a été avalé par un poisson, peut à la limite être expliqué sans recours au surnaturel. Il semblerait qu'on ait recueilli au moins un témoignage documenté, mais j'ai lu que c'était quand même discuté, d'un homme avalé par un cachalot, et qui aurait été recraché vivant. Il était inconscient quand même, mais vivant. Qui sait ? La question, c'est faut-il vraiment avoir recours à ce genre de justification ? Pour le plaisir, je vais vous citer l'explication la plus saugrenue proposée par un commentateur. Après avoir échappé à la noyade, Jonas aurait été recueilli dans une auberge qui s'appelait le Grand Poisson. Pas mal, celle-là. Personnellement, il me semble qu'on fait fausse route en essayant à tout prix de donner une explication rationnelle à ce qui dépasse le rationnel. Parce que nous sommes ici dans le domaine du miracle, il me semble. Le miracle, c'est l'intervention d'un Dieu illimité, d'un Dieu qui fait ce qu'il veut avec la nature qu'il a créée. On ne cherche pas à expliquer scientifiquement, d'un point de vue général en tout cas, la multiplication des pains par Jésus, par exemple, en disant « Ah, mais en fait, c'est parce qu'il y avait une boulangerie ». Non, on ne dit pas ça. On évoque volontiers le miracle. Pourquoi pas ici ? Dieu est libre de s'affranchir des lois naturelles. Ce n'est pas sa manière habituelle d'agir, je crois qu'il faut le dire, parce que Dieu a créé l'ordre naturel. Dieu a créé les lois de cause et d'effet qui sont à l'œuvre dans l'univers. Dieu a créé la structure qui est normalement à l'œuvre dans la création. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction entre les lois scientifiques et Dieu qui est à l'origine de ces lois. C'est d'ailleurs parce que Dieu a créé l'univers rationnellement, de manière structurée et ordonnée, que la science peut exister. Sinon, qu'est-ce qui nous dit que telle cause aura tel effet ? On peut le constater par l'expérience, mais comment l'expliquer si l'univers n'a pas été créé de manière ordonnée par Dieu ? Donc il faut quand même insister, je crois, sur le fait que le miracle, par définition sans doute, n'est pas la manière habituelle dont Dieu agit. En revanche, la Bible nous montre que parfois, dans des situations bien précises, Dieu, librement et souverainement, montre qu'il n'est pas lui-même soumis à ses lois. Il en est le créateur, il est au-dessus d'elle. Et je crois que la dimension surnaturelle du récit de Jonas, elle est présente dès le chapitre 1. Et avant même d'aller plus loin, il faut reconnaître que la manière dont nous lisons ce récit dépendra en grande partie de notre vision du monde et de notre vision du réel. La Bible nous parle d'un Dieu créateur sans qui, eh bien, nous ne serions même pas là, sans qui nous n'existerions pas. Et donc nous ne pouvons pas juger selon nos critères, qui par définition sont limités, par notre condition de créature, nous ne pouvons pas juger Dieu et dire, ben non, c'est impossible qu'il agisse ainsi. C'est absurde de raisonner ainsi si on croit au Dieu de la Bible. On ne peut pas donner de leçons au créateur du réel sur ce qu'est le réel. Alors, de deux choses l'une, soit nous croyons à un Dieu qui a créé et qui domine les éléments, et qui peut donc librement intervenir en dehors des lois naturelles normales, soit nous refusons de le croire, et en fait, ce faisant, c'est Dieu lui-même, ou en tout cas sa puissance, que nous nions. Le Dieu des miracles, celui-là même qui a créé tout à partir de rien, qui a fait sortir Israël d'Égypte par le biais de prodiges surnaturels, qui a donné la manne à son peuple dans le désert, qui a ressuscité Jésus au troisième jour, ce Dieu n'a-t-il pas pu sauver Jonas de manière inhabituelle, de manière étonnante ? Si nous croyons au Dieu de la Bible, je ne vois aucune raison de le nier. Il me semble qu'il n'est pas nécessaire d'aller chercher je ne sais quel exemple d'un homme qui aurait été avalé par un poisson. Ceci m'amène à une autre question que nous devons nous poser à propos de ce miracle. Est-ce que ce poisson a été l'agent du jugement de Dieu ou plutôt du salut de Dieu ? Il me semble que spontanément, en tout cas, pour ma part, ayant entendu cette histoire depuis l'école du dimanche et ensuite, j'ai eu tendance toujours à voir ce poisson, l'intervention de ce poisson, comme l'agent du jugement de Dieu. C'est vrai qu'être avalé par un grand poisson, bien que ça ne me soit jamais arrivé, ce n'est pas particulièrement désirable. Et c'est vrai que cet aspect du jugement de Dieu est présent dans une certaine mesure. Parce que Dieu aurait pu sauver Jonas immédiatement de la noyade, il aurait pu le placer sur la terre ferme. Il a préféré le faire attendre 3 jours, dans des conditions pour le moins extrêmes, avant de lui accorder une pleine délivrance. Mais si on regarde le texte, on voit clairement que Jonas interprète la venue du poisson avant tout comme une grâce accordée par Dieu. Parce que n'oublions pas que Jonas est dans le ventre du poisson quand il fait cette prière qui commence au verset 2, au verset 3. « De ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu. » Jonas dit ça alors qu'il est dans le ventre du poisson. « Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu. » Pour Jonas, la venue du poisson, c'est une délivrance. Il se noyait, il se dirigeait tout droit vers la mort, représenté poétiquement par le shéol, le séjour des morts. Et alors qu'il coulait, il a été rattrapé. Ce poisson a été presque comme un radeau de sauvetage pour lui, une bouée de sauvetage. Dieu a utilisé ce moyen étonnant pour le sauver de la noyade, et c'est ce qu'on voit lorsqu'on lit attentivement le texte. Verset 6, les eaux m'ont enserré jusqu'à la gorge, l'abîme m'entoure, des joncs se sont noués autour de ma tête. Il est en train de se noyer, autrement dit, c'est dit poétiquement. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes, les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Seigneur mon Dieu. Dieu surprend souvent dans sa manière de délivrer. Et là, clairement, c'est de manière surprenante qu'il délivre Jonas. Si vous êtes comme moi, vous vous attendez peut-être dans telle ou telle situation à ce que Dieu accorde telle délivrance précise de la manière que vous souhaitez à telle épreuve que vous vivez. Parfois, j'ai envie de donner un petit mémo à Dieu qui lui suggère les étapes à suivre pour m'accorder la délivrance dans telle ou telle situation. Mais Dieu est souverain, il agira comme il le veut. Et la seule chose dont nous pouvons être sûrs, c'est que sa manière d'agir est ultimement la meilleure. Je dis bien ultimement parce que Dieu a une vision panoramique de notre existence, contrairement à nous, et même de l'existence du monde entier. Ce qui explique que forcément on a une vision beaucoup plus limitée et que souvent on ne comprend pas la manière dont Dieu agit. En tout cas pas sur le moment. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser surprendre par les délivrances inattendues de Dieu? Est-ce que dans nos prières, tout en demandant l'intervention de Dieu, nous sommes prêts à le laisser faire en ce qui concerne la manière? Et nous sommes prêts à le laisser nous surprendre? D'ailleurs, si on pense à la délivrance suprême accordée par Dieu, cette croix où Jésus a fait l'expiation de nos péchés, c'est-à-dire qu'il en a payé le prix, mais qui aurait cru que Dieu agirait ainsi? Qui aurait pu imaginer un instant l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, sa passion, sa crucifixion, pour revêtir nos péchés à notre place? Mais Dieu est souverain. Et si à la croix il a pu nous accorder un salut qui dépasse les espérances les plus folles de l'homme, eh bien nous pouvons faire confiance à sa souveraineté jusque dans les détails de notre vie. Un drôle de miracle donc pour un drôle de prophète. Ou pour dire les choses autrement, une drôle de grâce pour un drôle de pécheur. Pourtant, malgré son aspect étonnant, le récit de Jonas est évocateur du salut que Dieu accorde à tous ceux qui lui font confiance. Et il met l'accent sur deux leçons essentielles que Jonas a comprises, ou en tout cas qu'il a commencé à comprendre. Et c'est ce que nous allons voir dans le second point, un cours d'humilité et de reconnaissance. Jonas a appris deux leçons essentielles, donc l'humilité et la reconnaissance, des leçons importantes que beaucoup d'entre nous avons sans doute besoin d'apprendre également. Et ces deux leçons sont liées. Alors commençons par la leçon d'humilité. Alors, sur ce point, Jonas est servi. D'abord, il y a des marins païens qui montrent qu'ils ont une meilleure théologie que lui. Ils comprennent mieux qui est Dieu, alors que lui est prophète, sans doute préposé au roi, prophète d'Israël, au chapitre 1, donc on voit cela. Ensuite, il est jeté par-dessus bord. C'est quand même déshonorant. Enfin, il est avalé par un grand poisson. Je me dis, Dieu aurait pu envoyer un aigle, par exemple, ou un dauphin qui l'aurait pris sur son dos, je ne sais pas, quelque chose de glorieux comme ça. Mais non, un grand poisson qui va l'avaler avant de le vomir 3 jours plus tard. Jonas va se retrouver dans une situation de vulnérabilité totale. Lui qui pensait fuir Dieu est amené à une situation dans laquelle il n'a pas le choix. Il n'y a rien qu'il puisse faire, sinon espérer la délivrance. Et d'ailleurs, il reconnaît qu'au-delà du geste des marins, c'est Dieu qui l'a amené là où il est, dans cette totale humiliation, où pour la première fois peut-être il va comprendre ce qu'est la grâce de Dieu. Verset 4, « Tu m'as jeté dans les profondeurs ». Jonas ne s'y trompe pas. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'il soit jeté dans l'eau. Mais ce qui est frappant, c'est que Jonas a discerné dans l'intervention du poisson un premier signe que Dieu l'a entendu. Et au-delà de cette première délivrance, il ose aller plus loin. Deuxième partie du verset 5, il dit « Je verrai encore ton temple sacré ». Il me semble que Jonas ne parle pas ici du temple physique de Jérusalem, mais plutôt de la présence même de Dieu, de son habitation céleste. Je crois que c'est ce que sous-entend le verset 8 « Ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton temple sacré ». La foi, entre autres, c'est cette audace de croire que dans l'extrême humilité de nos circonstances, nous pouvons être entendus par un Dieu qui règne sur l'univers. Cette foi où un Dieu suprême s'oppose à la futilité de l'idolâtrie qui est rappelée au verset 9 de ce texte. Idolâtrie qui consiste à accorder aux créations de l'homme l'adoration qui revient à Dieu seul. Parfois, c'est au cœur de l'épreuve que nous comprenons que Dieu est Dieu. Tandis que nos idoles, sur lesquelles nous nous appuyons si volontiers, ne peuvent rien pour nous. Et sur ce point, Jonas a compris quelque chose d'essentiel. La fin du verset 10 le formule parfaitement. C'est au Seigneur qu'appartient le salut. C'est au Seigneur qu'appartient le salut. Jonas, en tant que prophète d'Israël, il croyait déjà cela, en théorie. Mais c'est une chose de le dire depuis la cour du roi Jéroboam, c'en est une autre de dire cela dans le ventre du poisson. Jonas est face à l'évidence que c'est de Dieu seul qu'il peut espérer la délivrance. Et c'est là qu'il ne faut pas perdre de vue le chapitre 1. Jonas n'est pas juste n'importe qui, un quidam à qui Dieu a fait vivre une épreuve comme ça. Il est un prophète à qui Dieu a ordonné d'aller proclamer à Ninive, le dernier lieu où il voulait aller, à Ninive, que c'est au Seigneur qu'appartient le salut. C'est justement cela que Jonas était appelé à proclamer à Ninive. Plus tard dans le récit, les habitants de cette grande ville nous seront présentés comme des gens qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Par quoi il faut comprendre, je pense, des personnes en prise à un égarement spirituel total. Or Jonas, l'homme qui est appelé à les ramener sur le chemin qui mène à Dieu, prend lui-même la fuite pour aller le plus loin possible de Dieu. Lui qui est appelé à aller chercher les égarés, s'égare. Mais dans la manière dont Dieu est allé chercher Jonas jusqu'au fond de la mer, l'a sauvé de manière improbable avant de le rétablir sur la terre ferme, il y a comme un reflet en miniature de ce que Dieu veut faire à Ninive. Il veut aller chercher des hommes et des femmes qui sont tellement loin de lui que son salut paraît totalement improbable. Dieu est un Dieu missionnaire, un Dieu qui aime sauver. C'est une leçon majeure du livre de Jonas. Dieu aime sauver. Et on va le voir encore plus au chapitre 3 et 4. Mais Jonas va devoir d'abord faire lui-même l'expérience de ce salut. Avant de pouvoir l'annoncer aux Ninivites, eh bien si Jonas peut témoigner dans le ventre d'un poisson que le salut appartient au Seigneur, il n'a vraiment pas d'excuse pour aller proclamer cela à Ninive. Alors on verra que Jonas lui-même, il a eu un peu de mal à faire ce lien. Il va lui falloir encore de la pédagogie divine jusqu'au bout de ce récit. Par contre, l'intention de l'auteur du livre, alors peut-être Jonas a posteriori, peut-être un autre auteur, on n'en est pas sûr, mais l'intention de l'auteur est incontournable. Si Jonas, au plus profond de son égarement, a pu bénéficier de la grâce de Dieu, comment pourrait-il refuser de proclamer cette grâce à d'autres égarés? Si lui qui s'est à ce point perdu a été sauvé, et Dieu a vraiment mis le paquet pour le sauver en allant jusqu'à envoyer un poisson pour aller le chercher au fond de la mer, si Dieu était prêt à faire cela, pourquoi ne le ferait-il pas pour les Ninivites qui ne connaissent pas la différence entre la droite et la gauche, spirituellement parlant? C'est la même chose pour nous. Nous avons été l'objet de la grâce de Dieu. Comment ne pas la proclamer à ceux qui en ont tout autant besoin que nous? Nous ne la méritions pas plus qu'eux. Et même si on pense aux gens qui ont les vies qui nous paraissent les plus loin de ce que la Bible préconise, et à juste titre, méritions-nous plus que la grâce de Dieu? Par définition, non. Comment pourrions-nous refuser de la leur proclamer ou penser qu'ils sont hors d'accès de Dieu? La deuxième leçon que Jonas apprend est directement liée à l'humilité, c'est la reconnaissance. Alors même que ses circonstances sont encore très difficiles, il prend conscience que c'est Dieu qui l'a sauvé. Et ça change son regard sur son épreuve. Il peut vivre celle-ci dans la reconnaissance et la joie de sa relation avec Dieu. Et encore une fois, Jonas n'est pas encore sorti, non pas de l'auberge, mais du ventre du poisson. Verset 8, « Alors que je défaillais, je me suis souvenu du Seigneur, ma prière est parvenue jusqu'à toi. » La transition entre la chute et la remontée se fait au verset 7. Il y a un mouvement, d'abord on descend, puis on remonte. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais, c'est ce que Jonas pensait, hein, pour toujours, en fait, ce n'était pas pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Seigneur mon Dieu. Et Jonas ne se contente pas de constater qu'il est sauvé de la noyade. Il se tourne vers Dieu parce qu'il a compris que c'est de lui qu'est venue cette délivrance. Être reconnaissant, c'est justement reconnaître. C'est pour ça qu'on appelle ça la reconnaissance. Reconnaître que c'est au Seigneur qu'appartient le salut. La réflexion que je me fais à ce propos est la suivante. Si Jonas a pu célébrer Dieu et vivre une espérance nouvelle parce que Dieu avait envoyé un poisson pour l'avaler, à combien plus forte raison devrions-nous être reconnaissants pour la délivrance tellement plus magnifique encore que nous avons vécue si nous avons reçu le salut accompli par Jésus-Christ. Parce que si je comprends bien la Bible, je ne la comprends pas toujours très bien, mais si je la comprends bien en l'occurrence, nous avons déjà été bénis de manière inconcevable. Nous avons été éternellement pardonnés grâce au sacrifice de Jésus. Nous avons été introduits par le Saint-Esprit dans la présence même de Dieu, dans ce temple sacré auquel Jonas aspire dans sa prière. Nous y sommes par l'Esprit de Dieu. Autrement dit, nous bénéficions de sa présence, de son attention, 24 heures sur 24. Nous sommes liés au Dieu vivant, au Créateur, pour l'éternité et de manière irrévocable, comme ça nous a déjà été rappelé dans la présidence. Qui pourrait imaginer un plus grand privilège, une plus grande bénédiction? Ça ne signifie pas, bien sûr, que nous devrions faire semblant que la souffrance n'existe pas. D'ailleurs, Jonas ne fait pas semblant de ne pas avoir souffert. Il ne s'agit pas de minimiser la réalité de nos épreuves. La Bible ne le fait jamais. Mais l'apôtre Paul ne disait-il pas « Car pour moi, la vie, c'est le Christ ». Dans le ventre du poisson, Jonas attendait encore l'aboutissement de sa délivrance. Il attendait encore pour retrouver l'air libre et une vie nouvelle. Et d'ailleurs une nouvelle mission, une mission renouvelée. Sachons-nous aussi reconnaître que Dieu nous a déjà sauvés. Alors même que nous attendons encore la délivrance définitive de nos épreuves, et d'ailleurs cette délivrance de manière pleinement accomplie, elle n'interviendra totalement que dans le monde à venir. N'oublions pas, lorsque nos circonstances sont dures, que nous avons déjà reçu la plus grande, la plus inestimable des bénédictions. Quelques siècles plus tard, alors que des sceptiques lui demandaient des signes de sa messianité, Jésus leur a répondu que le signe qui leur serait donné serait le signe de Jonas. Et il donne cette explication un peu cryptique. « En effet, tout comme Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre. » La plupart des contemporains de Jésus avaient des attentes très précises vis-à-vis du Messie. Ils pensaient qu'il serait un roi qui bénéficierait d'un grand pouvoir politique et militaire, qui ferait l'unanimité en Israël, qui serait impressionnant à tous égards. Pourtant, Jésus, après un ministère rempli d'opposition, où seuls, au final, quelques centaines de disciples, sans doute, l'ont suivi dans un premier temps, avant la croix, avant la résurrection, Jésus a été trahi, arrêté, insulté, battu, et finalement crucifié. Lui qui est Dieu fait homme, a subi l'ultime épreuve humaine, la mort. Et pire que la mort, il a subi la condamnation de Dieu contre nos péchés. Lui est allé véritablement, pour utiliser l'imagerie de l'époque, au cœur de la terre, par quoi il ne faut pas voir, à mon sens, quelque chose de mystérieux ou de mystique, mais simplement le fait que Jésus est véritablement mort, le cœur de la terre symbolisait la mort. Et si Dieu a pu exaucer la prière de Jonas, si Dieu a pu l'amener dans une relation nouvelle avec lui, au-delà de son épreuve, c'est parce que Christ a été prêt à descendre plus loin encore que lui, tellement plus loin, à subir une épreuve bien plus terrible que celle de Jonas, lui qui pourtant était innocent. Et ce faisant, il est allé chercher Jonas au plus profond de son égarement. Et c'est ce qu'il a fait aussi pour nous. Il est allé nous chercher alors que nous étions en train de couler. Et si nous reconnaissons que nous avons reçu cette grâce imméritée, nous devons à d'autant plus forte raison prendre conscience de la mission qui est la nôtre en tant qu'Église, en tant que chrétien. Nous allons voir dans l'épisode suivant que, ayant été ainsi délivré par Dieu, Jonas comprend. Il ne va pas encore tout comprendre tout de suite, mais Jonas va être à nouveau envoyé en mission. Et cette fois, il va s'exécuter, parce qu'il a compris que si Dieu a pu le sauver, lui, alors qu'il était perdu, il peut parler de ce Dieu qui aime aller chercher les perdus, à ceux qui étaient peut-être encore plus égarés que lui. Que nous aussi puissions comprendre cette mission qui nous est donnée, parce que nous avons reçu de Dieu cette délivrance imméritée. Amen.